Bien, bonjour à toutes et à tous.
M'entendez ?
Je ne touche plus. Hein.
Il n'explose pas au moins. Je risquerai. Oh là là. Ce matin, je réalise que je remplace David. Il est 7h30. Et c'était sur Jean 12, normalement, que j'aurais dû vous parler ce matin. Je m'excuse vraiment. J'ai dit, au lieu de dire des bêtises, Jean 12. Et comme je travaille un petit peu toute la semaine les messages pour la radio, j'ai une trentaine de programmes à faire, là, bientôt. Donc, et je lis un bouquin qui est pas mal. Et j'ai fait un mix un petit peu de tout ça pour vous partager quelque chose qui m'a fait du bien cette semaine. Et juste vous lire deux versets pour commencer. Jean 15, 1 Corinthiens 15, verset 10. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Galates, chapitre 3, verset 3. Juste une parenthèse, Galates, l'église de Galates était composée de beaucoup de juifs, beaucoup de légalisme. Quand Paul passait dans cette église, tous les gens applaudissaient. La grâce de Dieu, etc. Et puis quand il repartait, on commençait à dire, oui, mais la grâce, il faut quand même un peu de loi au milieu de tout ça. Et donc, au point que les croyants de Galatie, ils finissaient par avoir une spiritualité qui était assez empreinte de légalisme. Et donc, l'apôtre Paul écrit, chapitre 3, verset 3, « Manquez-vous à ce point de bon sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ?» Je vais vous lire un extrait d'un bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Écoutez bien. Le message subtilement communiqué dans certains groupes est que nous sommes rendus justes devant Dieu par grâce afin d'accéder un jour au ciel, mais que pour le moment, c'est à nous de grandir et de devenir des chrétiens standards acceptables. Bien souvent, ce standard a plus à voir avec une conformité extérieure qu'avec une authentique croissance spirituelle intérieure. Aussi longtemps que vous ne faites pas certaines choses visibles, en particulier fumer, vous enivrer, avoir des rapports en dehors du mariage ou jurer, et que vous en faites d'autres, en particulier lire la Bible, aller à l'église et prier régulièrement, vous passez le test. Et ce même si à l'intérieur vous êtes toujours contrôlé par la cupidité, par la jalousie, par l'insécurité, l'impatience, la peur ou l'anxiété, même si vous êtes émotionnellement mort, désireux de tout contrôler, ou secrètement dépendant de la luxure ou des possessions matérielles, contentez-vous de ne pas le montrer et vous serez encore et toujours considéré comme un chrétien debout. Tout le message de Paul aux Galates est un rappel que seul Dieu provoque la croissance. Manquez-vous à ce point de bon sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ? John Burke, Perfection interdite. Je vous encourage à lire ce livre. Il décape. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens chapitre 2, verset 3. Les pensées critiques à l'égard des autres, contexte de l'Église, nous mettent toujours devant une posture mauvaise, une mauvaise posture face à Dieu. Je cite, Dieu m'infligea une de ses plus sévères punitions pour avoir porté un jugement sur le don d'enseignement d'un autre prédicateur. J'avais fait quelques remarques méprisantes à son sujet, et lorsque je voulus à nouveau prêcher, ce fut comme si j'avais perdu mon onction. Dieu me montra qu'en jugeant la façon de prêcher de cet homme, le don qu'il lui avait donné, c'était Dieu lui-même que je critiquais. J'ai décalé un petit peu le problème du début, mais c'est à peu près équivalent. L'orgueil nous pousse à nous surestimer nous-mêmes et à sous-estimer les autres. Et malheureusement, il nous offre une vision toujours plus déformée, finalement, de la vérité. Et ce n'est pas facile d'avoir une opinion juste à la fois des autres et de nous-mêmes. Et finalement, ce n'est pas facile de rester dans une soumission humble au Dieu auquel nous croyons. Pas facile. J'aimerais partager avec vous juste quelques petites caractéristiques de l'humilité. Peut-être qu'elles nous aideront à trouver un juste milieu aussi dans notre vie. Déjà, les gens humbles acceptent l'aide des autres. C'est vrai. C'est vrai dans l'Église, et c'est vrai dans l'Église locale, et c'est vrai aussi dans l'Église élargie. J'ai besoin de mes frères pasteurs de grâce. J'ai besoin de Frédéric Bican. De temps en temps, je lui demande des conseils. J'ai besoin de Mac Mengi, de l'ADD. J'ai besoin de Christian Barbery, de l'Église réformée. J'ai besoin de discuter avec eux. J'ai besoin de confronter un peu mes idées. Et puis, en même temps, j'ai besoin aussi de leur soutien. Il y a des choses que je ne comprends pas aussi de ce qui se passe aussi dans notre église locale. Et j'ai besoin de demander conseil, de dire, tiens, qu'est-ce que tu en penses de cette situation? Tiens, comment toi tu as fait pour développer ceci ou cela? Donc, ouais, on a besoin des autres. En général, l'humilité, c'est aussi rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire rendre gloire à Dieu, non pas pour ce que nous accomplissons, mais pour ce que Dieu accomplit au travers de nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis et que je fais ce que je fais. C'est important d'avoir cette vision-là, d'être reconnaissant. Et puis, d'être reconnaissant aussi pour les personnes que Dieu met sur notre chemin, bien sûr. Après, il y a aussi cette caractéristique de l'humilité, c'est d'être prompt à pardonner, on va dire, et à peut-être ce qui est difficile pour moi, difficile à offenser. Difficile à être offensé, tu vois ce que je veux dire? C'est rapide pour pardonner à quelqu'un et plus lent dans l'offense. Accepter d'être offensé. C'est pas évident, hein? Est-ce que j'ai la certitude que Dieu fait concourir au bien toute chose qui m'arrive? Après, l'humilité, c'est aussi aimer la paix. En général, ceux qui ont cette qualité-là, ils aiment la paix. Ils aiment être en paix. Faire le kilomètre supplémentaire, tu vois? Pour maintenir la paix dans les relations. Résister au besoin d'avoir constamment raison ou d'avoir le dernier mot. Je pense qu'on essaye, dans notre communauté, en tout cas dans le conseil d'église, d'être dans cet état d'esprit. Après, bon, on va dire que les gens qui ont cette qualité-là, ils vivent aussi pour servir. Ils donnent aux autres ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ils sont reconnaissants. Franchement, c'est pas difficile pour vous de... Vous savez, ce vieux chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu hein ». C'est bien, on le chante, mais comme le chant qu'on vient de chanter, ce sont des vieux chants. Mais on les sort de derrière les fagots, ils sont magnifiques. Hein, parce qu'ils parlent, ils disent vraiment quelque chose, ils ont du contenu. Mais je m'habitue tellement aux bénédictions de Dieu. Je m'habitue. Ça va de soi. Finalement, c'est presque naturel. Je le mériterais presque, tu vois. Je mériterais presque ce qu'il est en train de me donner. Après, il y a cette qualité aussi là, c'est de reconnaître ses torts. Il y a des gens qui savent, qui ont heurté quelqu'un, ils mettent parfois des années pour leur demander pardon. Pas des semaines, mais des années. J'ai raison. Et ce n'est pas une question de raison ou de tort. Hein. C'est simplement de se sentir mieux avec Dieu lorsqu'on est en paix avec les autres. Tu te sens mieux, tu te sens plus à l'aise quoi, avec Dieu. C'est vrai qu'il y a des choses difficiles. Pardonner émotionnellement, parfois c'est, je dirais, impossible. C'est une décision à prendre. C'est simplement une décision. Et quand on a pris cette décision, qu'on ne va plus retenir contre l'autre ce qu'il nous a fait, ben on est en paix. Ça ne veut pas dire qu'on est des idiots, hein, qu'on va se faire avoir à chaque fois. Mais bon. Et puis, il y a un des aspects aussi de cette humilité, c'est admettre ses faiblesses. En tirer les leçons, mais s'humilier soi-même, c'est plus intéressant que d'attendre que Dieu le fasse. Vous savez, Jésus est la représentation parfaite de l'homme tel que Dieu l'avait prévu. Et je pense à Jésus devant le calvaire. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme, ecce homo. Voici l'homme tel que Dieu le conçoit. Jésus, il est l'homme tel que Dieu le conçoit. Il est notre modèle, modèle suprême. Il est notre idéal parfait, l'exemple universel. Il n'y a pas de meilleur exemple. On peut parler de Mandela pendant les heures. Hein. Quel homme ! Mais comparé à Jésus, il ne fait pas le poids. Il ne fait pas le poids. Quelle est ma valeur aux yeux de Dieu malgré le péché ? Malgré ce qui s'attache à toi, quelle est ta valeur aux yeux de Dieu ? Parce que n'importe quel homme sur terre a de la valeur aux yeux de Dieu. Il est d'une manière ou d'une autre l'empreinte de la personne de Dieu. Tu vois le gars qui est dans un état lamentable, drogué, violent, etc. Ce gars-là, il porte quand même l'empreinte de Dieu. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme dans un miroir du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La transformation, c'est le but. C'est le but, mais on est en chemin. Hein. On est tous à des niveaux différents. Et je crois que le miracle de la grâce de Dieu, finalement, fait que nous apprenons plus de nos échecs que de nos victoires. Que les réussites. Parce que l'échec, finalement, il est plus instructif que la victoire. Et notre réussite dans la vie est souvent liée aux échecs que nous avons eus. Qu'on a su en tirer profit de ces échecs-là. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Alors, c'est vrai que quand on a le succès, on est content, on est presque drogué, on est étourdi par le succès. Et la défaite, finalement, nous pousse à réfléchir, à rechercher une meilleure solution. Et l'homme qui réussit a tendance à s'enorgueillir. C'est ce que je citais du bouquin tout à l'heure. Celui qui réussit, et le grand défi pour nous, chrétiens, en tant qu'Église, c'est d'accueillir les gens tels qu'ils sont. On dirait presque le plus grand défi, c'est d'accueillir un couple d'homosexuels. Comment on fait ? Là, ils arrivent. Et ils commencent à fréquenter l'église, à s'asseoir là. Tous les deux, ils sont mariés. Comment on fait ? On attend combien de temps ? On attend combien de temps pour leur tomber dessus ? On a un futur pianiste. C'est des questions que je me pose. Tu accueilles un couple de drogués. Tu attends combien de temps pour qu'ils changent ? De quel droit, moi, je dois définir le temps ? De quel droit ? Alors, Quelle est ma valeur aux yeux de Dieu ? Un proverbe dit « Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Nous devons donc prendre courage au milieu des échecs. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est là où nous puisons nous-mêmes notre courage pour avancer dans notre vie chrétienne. C'est là où tu puises ton courage, non ? Parce que tu sais que Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Il ne t'aime pas parce que tu es bien, sympathique ou tu es un bon chrétien, tiré aux quatre épingles. Il t'aime, point. Et c'est ça qui t'encourage, c'est ça qui m'encourage à moi. Et c'est ça qui me permet d'accueillir celui qui vient comme il est. John Burke, dans son livre, il écrit, je cite, hein, « À quoi ressemble cette vie ? J'ai la conviction que la spiritualité chrétienne est relationnelle jusqu'à la moelle. À travers le plus grand commandement, le deuxième commandement et le nouveau commandement, tu aimeras ton Dieu, tu aimes ton prochain comme toi-même. Et le dernier commandement, allez faire des fêtes des disciples. Jésus souligne que la mesure de la maturité spirituelle, c'est l'amour. Les autres commandements sont de simples commentaires précisant ce que cela signifie concrètement. C'est intéressant cette dernière phrase. Hein? Les autres commandements sont de simples commentaires précisant ce que cela signifie concrètement. Quelqu'un a écrit ce qui suit. L'amour de Dieu est sans fin. Il ne s'arrête jamais. Que nous le repoussions, que nous le rejetions, le haïssions ou lui désobéissions, il ne change pas. Il ne change pas. Notre méchanceté ne peut pas altérer l'amour de Dieu, ni notre bonté l'augmenter. C'est quand même, on a affaire à un Dieu qui est fantastique. Hein? Ta bonté ne peut pas augmenter l'amour de Dieu. Ta méchanceté non plus. Elle ne peut pas le diminuer. Notre foi ne peut pas plus le gagner que notre stupidité le mettre en danger. Dieu ne nous aime pas moins dans l'échec ou la réussite. Il ne t'aime pas moins parce que tu es dans l'échec ce matin. Il ne t'aime pas moins parce que plus parce que tu es dans la réussite. Il t'aime. Inconditionnellement, il t'aime. Waouh. Moi, je n'arrive pas à aimer comme ça. Et c'est pour ça que non, parfois, étant donné que nous n'arrivons pas à aimer de cette manière-là, c'est pour ça que nous sombrons souvent dans l'échec quand nous cassons la figure. Nous sombrons dans une sorte de défaitisme, on est dégoûté de nous-mêmes, on pense que Dieu nous aime moins et on met du temps pour se relever à cause qu'on croit que Dieu est comme nous. Il n'est pas comme nous. Alors, Dieu nous aime comme nous sommes, mais bien sûr, il refuse de nous laisser tel quel. Hein? Pas comme nous sommes. Il va nous transformer. Mais il y a des gens qui essuient tellement d'échecs, ont tellement de mal à avoir la victoire sur le péché. C'est tellement difficile pour elles, à cause des bagages, à cause du... pas savoir. Qu'elles se découragent totalement. Elles disent, c'est ma nature. J'y peux rien. Je peux rien faire. De toute façon, je suis comme ça. On peut rien. C'est décourageant comme perspective. Hein? Mais il y a une bonne nouvelle. Voici l'homme. Voici l'homme. Éphésiens 2, chapitre 2, versets 14 à 16. L'homme nouveau, c'est d'abord le Christ en personne. Hein? Car il est notre paix. Ce n'est pas nous qui sommes notre paix avec Dieu. Nous ne sommes pas nous-mêmes notre paix, c'est lui. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Ce n'est pas nous qui renversons le mur de séparation entre Dieu et nous. C'est encore lui. L'intimité, l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps. Par quoi ? par la croix en détruisant par elle l'inimitié. L'homme nouveau, c'est donc tout homme qui vit et qui marche dans la victoire de Jésus-Christ. L'homme nouveau, la femme nouvelle, c'est celui, celle qui marche dans la victoire de Jésus-Christ. C'est pas « j'ai la victoire, super, j'ai eu la victoire, je suis victorieux ». On oublie la suite. Par Christ, en Christ, par lui, de lui. C'est pas de nous, ça ne vient pas de nous, ça ne peut pas venir de nous. C'est pas possible. Alors, on est en train de redevenir ce que nous aurions dû être au départ, hein, en fait. Et dans la pratique, on entend « va et ne pêche plus ». Et ce matin, j'ai entendu encore le Seigneur me dire « va et ne pêche plus ». Et hier après-midi, je l'ai encore entendu me dire « va et ne pêche plus ». Hier matin, il m'a encore dit « va et ne pêche plus ». Avant-hier, il m'a dit « va et ne pêche plus ». Avant-hier, je peux remonter loin comme ça. Il ne te dit pas ça tous les jours ? Demain, après-demain, j'entendrai encore « va et ne pêche plus ». Et moi, dans ma petite tête, dans mon petit cœur étriqué, parce que je n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu, je me dis « mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand, mon Dieu ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand tu vas me dire « va et ne pêche plus » ? Est-ce que Dieu continue à m'aimer lorsque je glisse dans le péché, lorsque je chute ? Est-ce que je garde la même valeur à ses yeux ? Marcher par l'esprit ? Est-ce que ça signifie absence d'échec? Le péché, c'est grave. Je ne suis pas en train, en disant ces choses, de minimiser le péché. C'est grave, c'est très grave. Parce qu'il dénature l'espèce humaine, mais aussi et surtout parce qu'à la chute, il nous a séparés de celui qui nous a créés à son image et qui nous aime. C'est grave. C'est très grave. Mais en même temps, le péché ne désigne pas nécessairement des actes coupables. Ce n'est pas nécessairement faire ce que nous aurions dû faire ou pas faire ce que nous aurions pas dû. C'est pas si simple que ça. Le péché, c'est un état, une condition. Nous sommes comme ça. C'est une maladie. On peut guérir les symptômes d'une maladie, mais si on ne traite pas la cause... C'est comme un arbre. Hein. Tu soignes les pommes, mais si tu ne soignes pas l'arbre, et le Seigneur est venu soigner l'arbre. Et c'est cet arbre-là, ton arbre, mon arbre, qu'il est en train de soigner. Infecté par ce virus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu le crois ? C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La réponse que Dieu donne au péché, c'est la croix. La réponse que Dieu donne à mes échecs, c'est la croix. Il y a un pardon judiciaire. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, quoi ? Le pardon des péchés. C'est une bonne nouvelle. Et l'unique moyen par lequel ce pardon judiciaire, dommage qu'il n'y ait pas Yann, nous aurait dit ce que c'est un pardon judiciaire dans la société, mais c'est la croix. Devant Dieu, c'est la croix. Vous qui étiez morts par vos offenses, etc. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Ça, c'est éliminé, c'est effacé. Du moment où t'as accepté Christ dans ta vie, ça, c'est effacé. Après, il y a la marche avec Christ, on est d'accord. Mais ça, c'est effacé. Aux yeux de Dieu, c'est réglé. Tu es un enfant de Dieu. C'est réglé une fois pour toutes. Ensuite, on bénéficie d'un pardon, je dirais, familial, puisque Dieu est devenu notre Père en Jésus-Christ. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie quoi ? Pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Abba, Père. Papa. Tu ne peux pas être aujourd'hui appelé papa et demain appelé... c'est pas possible, c'est ton père. Notre condition humaine a changé. Car cette fois, j'aime bien cette phrase, car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Cette fois, le chiffre parfait. Derrière ce cette fois, c'est l'infini. Parce qu'il y a longtemps que j'ai chuté cette fois. Car cette fois, le juste tombe et il se relève par Christ. Car le juste pourra tomber sept fois et il se relèvera, tandis que les méchants perdent pied dans le malheur. Ça, c'est la taube. Je perds pied lorsque j'oublie que je suis le fils de mon père, lorsque j'oublie l'amour inconditionnel de Dieu, lorsque j'oublie que Dieu est lent à la colère, riche en bonté, en bienveillance, lorsque j'oublie qu'il ne me traite pas selon mes péchés, heureusement, lorsque j'oublie que Dieu a compassion de moi parce que je suis fils. David a eu une révélation spéciale de cette nouvelle condition. Il l'exprime dans le psaume 103. Écoutez ce qu'il dit. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent, ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses, comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. J'aime bien ça. Il sait de quoi tu es formé. Il sait ce qui te tracasse, il sait les endroits qui te posent problème dans ta vie pour être dans la sanctification. Un grand mot, hein. Et même si parfois nous, chrétiens, gens de la famille de Dieu, on perd pied, on a l'impression de perdre pied, on doit se souvenir que le Seigneur nous aime d'une façon inconditionnelle, que sa bienveillance, elle est autant éloignée. Qu'est-ce qu'il est dit ? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace. Nous ne devrions plus être asservis par la chair, puisqu'on a le Saint-Esprit. On est en train de redevenir ce que nous étions avant la chute. Notre nature profonde, le tronc d'arbre a été guéri, le fond, mais il y a encore les fruits pourris dessus. Et il faut que ce tronc d'arbre, ils produisent de bons fruits. Et petit à petit, ça va se faire dans notre vie. Mais jusqu'à notre mort, il y aura toujours des points sur lesquels on va dire « Oh là là, oh là là, heureusement !» Parce que le jour où on commence à dire « Ah ouais, génial !»« Ah voilà, ça va là !»« Ah ouais !» Et puis comme je le lisais le texte au début, « Oh, t'as vu lui là-bas, il fume ?»« Ah mais t'as vu lui là-bas, il fait ci ?»« Ah mais t'as vu lui là-bas ?» Et là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Là, je commence à avoir les chevilles qui enflent, comme on dit. Les séquelles que nous avons, défauts de nos personnalités qui nous agacent, qui nous dégoûtent, mauvaises habitudes avec lesquelles nous luttons, échecs répétés, défaites. Tout ça, finalement, ça a l'avantage de nous humilier, finalement, de nous rendre dépendants de Dieu. Ça devrait nous rendre dépendants de Dieu, nous humilier. Mais bon, c'est pas gagné. En général, on baisse les bras. Martin Luther, il résume notre condition, il dit « C'est comme une personne qui est malade et qui croit au médecin qui lui a promis une guérison totale. » Voilà comme nous sommes. En attendant, on obéit aux ordres du docteur en espérant recouvrer la santé. C'est pourquoi on s'abstient des choses que le médecin nous a déconseillées afin que rien ne vienne ralentir ni faire obstacle à la guérison promise. Cette personne malade est-elle en bonne santé ? En fait, elle est à la fois malade et guérie. Elle est malade en réalité, mais elle est guérie sur la base de la promesse faite par le docteur en qui elle a confiance et qui la considère déjà comme guérie. Vous avez suivi ? On est à la fois malade et guérie. On est en même temps malade et en même temps guérie. On est guéri parce qu'on croit que le médicament que nous donne Dieu va nous guérir totalement. Repartir à zéro tout le temps. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Ben non. Notre objectif est d'atteindre quand même celui de Matthieu 5, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». On tend vers cette perfection. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Et en même temps, on est très réaliste sur nous-mêmes. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. On peut demander pardon. Si vous arrivez à retenir cette phrase, ça sera super. Écoutez bien. Aussi élevé que soit le niveau spirituel où vous vous croyez, souvenez-vous qu'Adam était au paradis au moment de sa chute. Je répète. Aussi élevé que soit le niveau spirituel où vous vous croyez, souvenez-vous qu'Adam était au paradis le jour de sa chute. Le chemin te paraît long. Parfois, tu es découragé, tu es épuisé. Tu as tendance à baisser les bras, à devenir fataliste. Dieu le sait. Et le diable le sait aussi, parce qu'il est l'accusateur. Et la liste est longue. Hein. Il a la liste, hein. Il a plus de listes que moi. Moi, je ne me souviens plus de toutes les bêtises que j'ai pu faire. Lui, s'en souvient. Et il s'en souvient bien pour me les mettre devant le nez. Le Seigneur veut nous transformer. Je vais terminer. Juste par la suite, je vais vous relire le paragraphe du début avec la suite. Le message subtilement communiqué dans certains groupes est que nous sommes rendus justes devant Dieu par grâce afin d'accéder un jour au ciel, mais que pour le moment, c'est à nous de grandir et de devenir des chrétiens standards acceptables. Bien souvent, ce standard a plus à voir avec une conformité extérieure qu'avec une authentique croissance spirituelle intérieure. Aussi longtemps que vous ne faites pas certaines choses visibles, en particulier fumer, vous enivrer, avoir des rapports en dehors du mariage ou jurer, et que vous en faites d'autres, en particulier lire la Bible, aller à l'église et prier régulièrement, vous passez le test. Et ce, même si à l'intérieur, vous êtes toujours contrôlé par la cupidité, la jalousie, l'insécurité, l'impatience, la peur ou l'anxiété. Même si vous êtes émotionnellement mort, désireux de tout contrôler ou secrètement dépendant de la luxure ou des possessions matérielles, contentez-vous de ne pas le montrer et vous serez encore et toujours considéré comme un chrétien debout. Je cite Lisa, suite du paragraphe. Hein. J'ai grandi dans l'église. J'en connaissais le langage et tous les clichés. J'en avais assez entendu. Je détestais ce christianisme haineux et petit bourgeois dans lequel j'avais été élevé à cause de son légalisme, de son esprit de jugement et de sa mentalité, vous forçant à entrer dans un moule. Je détestais la façon dont nous étions entraînés à matraquer les gens à grands coups d'évangile. Waouh ! Tout le message de Paul aux Galates est un rappel que seul Dieu provoque la croissance. Manquez-vous à ce point de bon sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Je continue juste le texte, 5 dernières lignes. Apparemment, c'est un piège dans lequel de nombreux chrétiens tombent. On commence par la grâce, mais on finit par pédaler en arrière en essayant de se rendre soi-même ou les autres acceptables par des efforts personnels. La Bible est parfaitement claire. Ce n'est pas de cette manière que nous grandissons spirituellement. Cela a pour seul résultat une conformité extérieure qui n'empêche pas que nous continuions à être liés intérieurement. Le Seigneur veut nous délier intérieurement. Il veut commencer par là. Heureusement, lorsque la culture appropriée est créée, Dieu fait pour nous tout ce que nous pourrions jamais faire par nous-mêmes. John Burke. Perfection interdite. Je vais prier. Seigneur, merci de nous rappeler, déjà par ta parole, et aussi par des frères qui écrivent ce genre de livre, ô combien nous pouvons être dépendants de notre image, de l'image que nous voulons renvoyer aux autres, dépendants de nos propres forces, qui nous poussent finalement à juger les autres. Seigneur, je sais que tu écrases personne ici ce matin. Je sais que tu es là, que tu aimes et que tu aimes encore. Je sais que tu es ce Dieu qui nous prend tel que nous sommes, qui veut nous transformer par ta grâce. Et Seigneur, je te prie vraiment pour que tu aides chacun d'entre nous à te dire oui simplement. Oui, transforme-moi. Et si quelqu'un est en situation d'échec ce matin, un problème qui, au fond de lui, lui donne ce mensonge que tu ne l'aimes plus ou que tu ne l'aimes pas. Seigneur, interviens. Interviens dans ce cœur. Dévoile-toi. Seigneur, nous avons besoin de t'entendre à nouveau, nous dire que tu nous aimes. Et nous sommes aussi ce matin là réunis pour te dire que nous t'aimons en retour. Mais Seigneur, c'est une grâce. C'est un cadeau que tu nous fais, un privilège. Merci pour les victoires que tu accomplis au travers de nous. Pardon pour nos échecs. Pardon pour nos péchés, nos manquements, nos échecs répétés. Mais merci pour ton pardon. Merci parce qu'on peut se relever maintes et maintes fois. Merci parce que tu continueras jusqu'au bout à nous dire « va et ne pêche plus ». Merci pour ta sainteté. Merci pour ce que tu as fait sur la croix pour nous. Amen.